With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mais il se passe des trucs de fou dans le jeu vidéo Kingdom Hearts 4, une sorte de Tamagotchi de Niantic, et puis un métavers de Lego et de Epic qui sont ensemble. Bah on va parler de tout ça tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Pour ma part, ça va, on va dire correctement, mais Eska, j'ai fait une erreur. Une erreur fondamentale, dramatique. Est-ce que tu veux savoir de quoi il s'agit ? Tu veux deviner ?
Est-ce qu'on en revient aux enfants ou pas ?
Oui, oui. Bon, j'ai fait une erreur. Là, ce n'est pas l'erreur de j'ai fait deux enfants, mais c'est lié. C'est lié.
En général, on kickstart toujours les émissions en parlant des enfants, comme ça on vide un peu notre sac et après on n'en parle plus.
Non, mais j'ai fait un truc, une erreur. J'ai regardé le premier épisode de Euphoria. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'Euphoria ?
Alors, j'en ai entendu parler, mais il va falloir que tu me remettes dans le contexte.
C'est une série HBO avec Zendaya, et c'est genre la jeunesse des adolescents lycéens aux États-Unis, même pas dans les grandes villes, tu vois, dans les banlieues. Mais c'est le festival de la coke, les abus sexuels de partout, enfin c'est terrible.
C'est joyeux quoi.
Oh là là, alors évidemment c'est pas un documentaire si tu veux.
Il n'y a pas une série anglo-saxonne qui s'appelait Skins qui parlait un petit peu de la même chose.
Un petit peu.
Ça te parle ou pas ?
Et justement, dans la chatroom, puisqu'on est en live sur Twitch, comme tous les jeudis midi, il y a Mister Pop-Pop qui nous dit c'est Skins 2.0, c'est un peu ça. Mais c'est dur, pas parce que tu vois, tu te dis c'est comme ça tous les jours pour tous les jeunes, mais tu te poses des questions d'une part, et puis d'autre part, enfin nous, on a fait des conneries aussi. Hein, quel était le nom de ce film qui était tiré d'un livre, justement, qui était un film complètement déjanté? Alors, je ne vais pas vous aider, hein, mais ce mec d'une série un petit peu... Il y avait un des personnages du film qui était un mec d'une série un petit peu comédie romantique, un petit peu gnangnan, que moi, j'adorais. Quelque chose cric. Ah, merde je me souviens
plus. Tu parles pas de Dawson ?
Si, Dawson's Creek.
Ah.
Et l'acteur principal, il était... Il avait l'un des rôles de ce film que j'ai adoré et qui représentait un petit peu comment dire une certaine image qu'on avait de notre jeunesse. Comment il s'appelait ?
Le héros de Dawson ?
Ouais. Non mais l'acteur.
James Van Der Beek.
Ok.
Tu parles pas de Joshua Jackson ? Celui il est beaucoup plus connu au final.
James Van Der Beek.
Alors je sais pas si on dit Beck ou Beek. Je ne suis
Beek,
pas.
Ok. Movie, on va essayer de voir. J'ai tapé n'importe comment parce que j'essaie de faire.
Je crois que j'ai jamais vu un seul film avec ce mec dedans.
Oui, il a pas eu une carrière totalement incroyable. Mais je suis. Ah oui, c'est Les Lois de l'Attraction. Ça doit être ça. Alors, je me souviens plus du nom. On va voir. Les Lois de l'Attraction. Et on va voir si on peut trouver le titre en anglais. Les Lois de l'Attraction. Oui, mais là, il trouve pas. Film. Film, hop. Les lois de l'attraction, film de Roger Ivry.
Moi, j'ai The Rules of Attraction.
C'était compliqué de se souvenir du film, du nom anglais. Hein. The Rules of Attraction. Super bien ce film, un petit peu déjanté, un petit peu inquiétant. Mais bon, c'est un petit peu la même ambiance. Donc, pour répondre à la question que je me suis posée moi-même, oui, ça va. Mais maintenant, je crois que mes enfants vont rester dans mon village finlandais, dans la campagne, jusqu'à l'âge de 35 ans. On va faire comme ça. Et toi, ça va ?
Oui, franchement, ça va. Tout va bien. Là, je suis en train de commencer à planifier mes vacances. Le Covid n'est presque plus qu'un lointain souvenir et ça fait du bien. Tout va bien. J'ai un peu moins joué dernièrement. J'ai beaucoup lu. Mais j'ai quand même un petit peu joué. On en reparlera tout à l'heure.
Il y a quelques jeux que j'ai vus dans ta liste, dont un, je ne suis pas sûr duquel il s'agisse, mais on va en parler. Et puis, aussi, un des facteurs qui fait que, bon, quand même, ça va bien, ça fait passer la pilule de Euphoria. Merde, non, je ne devrais pas le dire comme ça, c'est un truc sur la drogue et tout. Bon, bref, c'est, tu sais qui, c'est Bruno, comme je l'aime, et Sakaitsu, qui sont les deux nouveaux patriotes de l'émission. Wouhou!
Attends, super, Bruno et Sakaitsu.
Ah ouais, je vais faire un truc.
T'as un jingle pour ça.
Les nouveaux patriotes. Et bien sûr, le pardon, oui.
J'allais dire, t'as pas l'équivalent vous est là.
Non, j'ai ça. J'ai d'autres choses. Mais attends, qu'est-ce que je pourrais te retrouver d'autre? Non, je pense que c'est à peu près tout. Mais on va le refaire une fois. Voilà. Et aussi pour Steph Sinalco, qui est le producteur de cet épisode. Merci à vous tous. Et vous savez, vous qui écoutez l'émission, là, la raison pour laquelle vous avez droit à cette émission, c'est grâce à eux, c'est grâce à Bruno, à Sakaitsu, à Steph Sinalco et à tous les autres patriotes qui soutiennent l'émission sur patreon.com/rdvjeu.
C'est un petit peu plus classe que le jingle du Captain Web, les sous-sous dans la peau poche.
L'intention est un petit peu la même, si tu veux. Hein, Hey, j'ai une super idée. Escarina, et si on parlait de news jeux vidéo?
Allez.
Je suis
presque venu pour ça.
Bon, il y a eu des annonces quand même. Hein. Je vous cache pas que c'est une semaine un tout petit peu plus calme que les semaines précédentes, mais il y a eu tellement de trucs complètement fous ces trois derniers mois que même plus calme, il y a quand même des choses. Et en l'occurrence, un truc qui envoie certains fans de certains jeux dans la stratosphère, c'est cette annonce assez inattendue d'un nouveau Kingdom Hearts 4, qui a été annoncé du coup il y a quelques jours par Squenix. C'est un petit peu... Alors, je vais le mentionner rapidement. Il n'y a pas que Kingdom Hearts 4 qui a été annoncé. Il y a aussi The Missing Link, qui est un truc qui fait le lien entre l'ancien arc et le nouvel arc, qui est un truc sur mobile. Il y a aussi un autre jeu mobile, dont je vous avoue que j'ai oublié le nom. Il ne m'a pas paru complètement inoubliable, mais on verra. Ça se trouve, ça sera le best thing ever. Mais vraiment...
Attends, je te coupe juste rapidement, mais pour dire que... Les images que tu es en train de passer, là, le jeu un petit peu 2D mignonne, c'est vraiment honteux parce que c'est du pur repompage de tout ce qui est Theaterism, Final Fantasy. Ils ont vraiment repris les mêmes assets, quoi.
Mmh,
et ils te font du... Enfin, bref, voilà.
On a le droit de reprendre des assets pour faire un autre jeu.
Oui. Mais,
bon, on verra. C'est aussi un jeu mobile, celui-là. Je t'avoue que celui-là, je n'ai pas vraiment vu les détails dessus. J'ai vu Missing Link, qui lui, il fait vraiment jeu mobile pour le coup. Là, Missing Link, c'est carrément hyper méga mobile. Mais
c'est peut-être Switch alors l'autre. Hein.
C'est peut-être Switch, c'est possible. Bon, moi, il m'a pas paru foufou. Mais le truc hyper important, c'est donc ce nouveau jeu. La vraie suite de Kingdom Hearts 4, qui commence un nouvel arc de Lost Master Arc, c'est ça, pour Sora et ses amis. Et on n'en a pas vu grand chose. Hein. C'est un trailer qui est possiblement en jeu, possiblement un petit peu... Non, ça a l'air d'être en jeu quand même, mais possiblement un petit peu pré-rendu. Et il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'on est vraiment dans une ville... un peu réaliste, avec des personnages qui sont un petit peu plus réalistes que dans les Kingdom Hearts traditionnels, mais la ville elle-même, c'est vraiment... J'ai entendu certains comparer la chose à ce qu'on a eu comme effet dans Super Mario Odyssey quand il arrive dans New Donk City. C'est genre Mario qui est dans un endroit où il y a des gens normaux, quoi. Je comprends, c'est un petit peu proche de ça. Et puis, il y a un gros monstre qui arrive dans la ville. Et puis, Sora, il arrive et il va aller taper dessus avec sa Keyblade. Mais bon, je crois qu'au-delà du trailer lui-même, dans lequel on n'apprend pas énormément de choses, même si je suis sûr qu'il y a des experts qui sont allés dépecer chaque petit morceau, chaque frame du trailer, c'est quand même l'annonce d'un nouveau Kingdom Hearts. Qui était un peu inattendu, je crois.
Bah écoute, moi c'est pas une licence que je suis particulièrement, j'ai des potes qui sont assez fans. J'ai essayé à plusieurs reprises d'y jouer, mais j'ai jamais accroché au gameplay. Et j'avoue que malgré ça, j'étais effectivement assez étonné par cette annonce. S'il y a bien une licence que je pensais enterrer après le dernier épisode, c'était celle-là. J'avoue que j'étais vraiment, vraiment étonné. Donc on va voir ce qu'ils en font. Après, moi, je t'avoue que le trailer... autant j'aimais bien le côté un petit peu... HD mignon de Kingdom Hearts. Alors j'allais dire la trilogie, mais ce serait même pas vrai parce qu'il y a eu des
les 2.5, 2.8 HD, Death by Sleep, machin. Il y en a eu 10 des jeux, 10-12, quelque chose comme ça.
Et du coup là, enfin voilà. Ça, en tout cas, j'étais déjà pas le public avant. Je suis clairement toujours pas le public. Après, pourquoi? C'est toujours la question que je me pose.
Je crois que ce qui s'est passé, en fait, finalement, dans les bureaux de Square Enix, c'est qu'ils se sont posé une question simple. Ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait faire plus d'argent
avec cette série? Je pense.
La réponse étant oui, ils ont fait comme la plupart des sociétés de jeux vidéo au monde. Ils se sont dit, est-ce qu'on veut plus d'argent? Oui, ok, alors on va en faire un en plus. Non, on plaisante, mais... Là, ça a l'air d'être vraiment l'arc précédent est terminé. Et donc, ils ont quand même amené une conclusion au truc. Et là, on repart sur autre chose avec le même univers. Moi, je fais partie des gens qui disent attendons de voir s'ils ont des bonnes idées et ils n'ont pas l'air d'en manquer pour Kingdom Hearts. Pourquoi pas, tu vois, il n'y a pas de raison de se priver.
Après, d'un point de vue purement scénario, est-ce qu'ils avaient répondu à toutes les questions avec le dernier épisode? Est-ce qu'il y avait encore des portes ouvertes? Ça, je ne sais pas. Qu'il y avait encore des choses à dire?
Je peux imaginer. Là, ça a l'air vraiment de partir sur un nouveau truc. Hein. Mais oui, il y a forcément des portes ouvertes. Je veux dire, Kingdom Hearts, c'est une série de portes ouvertes.
C'est tellement complexe
infinies,
que... Mais bon, tu vois, je me dis, si ils partent sur autre chose, pourquoi ne pas avoir fait une autre licence, un monde un peu plus... on en revient toujours à l'argent. Hein.
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ils font plein de nouveaux trucs chez Square Enix. Oui, ils banquent sur leur grosse licence, évidemment. Mais ça ne les empêche pas de faire d'autres choses aussi. Moi, je ne suis pas du tout, tu l'auras compris, hein, je ne suis pas du tout, dans la mouvance, il faudrait arrêter les trucs qui marchent, comme ça, on fait d'autres choses. Je comprends la fatigue des séries à rallonge, des trucs qui n'en finissent plus, mais...
Oui, non, mais tu sais, il y a un petit
parfois,
côté...
Parfois, ça gâche le plaisir que tu as du truc, et ça peut même gâcher, à vrai dire, l'image des trucs réussis d'avant.
Il y a un petit côté Miyazaki qui dit c'est mon dernier film et en fait à chaque fois il revient quoi.
Oui, je comprends. Et tu vois, et puis parfois on a des surprises comme The Last of Us Part II, on se disait mais c'est impossible de faire un truc qui tienne, tu vois, avec la perfection du premier. Et puis au final, ils arrivent à faire un truc cohérent qui tient, qui continue à te montrer le parcours des personnages auxquels tu t'es attaché. Bon, au bout d'un moment, oui, mécaniquement, tu finis par te planter, mais moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Le risque que ça se plante, je veux dire que ça gâche le plaisir des gens, pour moi, est compensé par la possibilité d'avoir plus du plaisir que tu as déjà eu et des moments que tu as partagé avec les personnages. Et puis en plus... Kingdom Hearts 4, peut-être qu'il y aura des mondes Star Wars et Marvel même, qui sait?
Peut-être.
Et que ça serait, pour moi, ça voudrait dire que je serais obligé d'y jouer, tu vois, imagine.
Et il est annoncé pour quand, du coup?
Oh, ils n'ont pas de date sur ça.
Ils n'ont pas de date.
On travaille dessus. Et puis, on verra quand ça sortira. Je ne suis pas certain, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de date sur Kingdom Hearts.
Il faudra faire venir un fan acharné de la licence pour qu'il nous donne...
Oh, et on aura le temps, t'inquiète pas, ça sera donc voilà, ça c'est l'une des grosses news. L'autre grosse news, qui vient juste d'arriver, qui pour moi est vraiment une grosse news, c'est l'annonce de... comment il s'appelle ? Peridot, voilà. Peridot, c'est un nouveau jeu de Niantic. Vous savez, Niantic, hein, c'est ceux qui ont fait notamment Pokémon Go, pas que. Ils ont fait d'autres choses qui étaient plus ou moins réussies, notamment le jeu de Harry Potter, dont j'ai oublié le nom, mais qui s'est fermé, je crois. Si je ne me trompe pas, il s'est fermé. Ils l'ont fermé il y a un an ou un an et demi après son lancement. Donc, ça n'a pas super bien marché. Mais... Peridot, c'est donc leur nouvelle initiative qui n'est pas du tout liée à une licence existante, mais qui ressemble quand même beaucoup à des sortes de Tamagotchi dans le mode d'utilisation de Pokémon Go. C'est-à-dire qu'on va avoir une petite créature qu'on va adopter et dont il va falloir s'occuper. Et la manière dont on s'en occupe, c'est un petit peu comme on le faisait, enfin les activités qu'on faisait avec Pokémon Go. Donc, il va falloir, elle va nous dire, ah ben maintenant, je veux sortir, je veux aller à j'en sais rien moi, une fontaine. Donc, il faut, peut-être que ce n'est pas vraiment une fontaine, mais un des lieux fontaines qui sont marqués sur ta carte dans l'application Peridot. Je pense que tout le monde sait, hein, Pokémon Go, c'est le truc en plus ou moins réalité augmentée qui fait qu'on doit aller marcher dans plein d'endroits et récupérer des Pokémon et faire des batailles de Pokémon dans l'espace réel, IRL, avec notre téléphone à la main. Et donc là, une petite créature qu'on a adoptée qui va nous dire « Ah, oh, j'aimerais bien aller à tel endroit. » Alors, tu dois y aller, tu dois aller trouver des fruits que la créature aime bien, ou des champignons, ou des trucs. Et puis, tu dois la nourrir, t'en occuper. Et un truc qui est marrant, c'est que ta créature, elle est unique. Elle est complètement unique.
C'est sympa,
unique.
Ça. T'es en train de dire que c'est un NFT ?
Un petit peu, sans NFT, mais oui, un petit peu, ouais. C'est un truc complètement unique.
Tu vas voir qu'ils vont arriver avec ça dans une semaine ou deux.
Bah, ils disent « Each Peridot is 100% unique and 100% yours. » 100% yours, 100% à toi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, peut-être qu'ils arriveront avec ça. Mais dans tous les cas, donc on peut s'en occuper, on peut les faire, tu vois, il y a plusieurs générations, tu peux leur faire faire des petites familles avec d'autres péridotes qui vont faire des enfants. Et alors, le truc, tous les trucs genre 100% unique, après, ça peut être unique parce qu'elle a une oreille 2% plus petite que l'autre, tu vois. Ça se trouve, c'est dans ce sens-là, parce qu'il risque d'y en avoir des millions. Mais...
ou dans ses caractéristiques, ou bref.
Bah, le truc, c'est que ça peut donner des trucs moches, quoi. Les trucs faits un petit peu aléatoirement, des couleurs immondes et des oreilles
on
bizarres.
On l'avait vu dans Sport.
Mais écoute, c'est ton animal de compagnie. Tu ne choisis pas sur catalogue, hein, et tu l'aimes quoi qu'il arrive, donc... Donc voilà, c'est le nouveau jeu. Moi, je pense qu'il y a un vrai potentiel sur un truc comme ça. J'y croyais pas trop au truc précédent, genre Harry Potter. Enfin, j'y croyais pas trop, ça aurait pu marcher. Mais bon, là, l'idée que ça soit une sorte de Tamagotchi dont tu dois t'occuper, c'est vraiment un Tamagotchi moderne. Et puis, tu dois sortir, faire des trucs pour t'en occuper. Je trouve que c'est pas con. Et puis, c'est une licence qui sera à eux en plus. Donc, je trouve que c'est pas bête.
Ouais, je suis toujours partagée. Moi, j'attendrai d'en savoir un peu plus pour me prononcer. Je suis toujours un peu partagée par le côté ça fait sortir les gens dehors. On a vu hein, avec Pokémon Go que ça avait des effets bénéfiques, notamment sur la santé. Il y a eu plein de storytelling avec plein d'expériences très intéressantes. Mais moi, je suis toujours gênée, un petit peu gênée par le fait de on t'amène dehors, ce qui est positif, mais tu restes le nez rivé sur ton téléphone.
ouais, mais ça va, c'est bon. Tu sais. C'est comme les vieux qui disent « Ah, mais les mangas, c'est pas de la lecture. » C'est incroyable.
Je suis une vieille. Non, mais du coup, j'attends de voir. J'attends de voir. Après, le message a l'air positif, ça a l'air mignon. J'attends de voir le modèle économique aussi. Après, bon, Niantic, ils ont toujours eu, je trouve, une philosophie produit qui avait l'air jusque-là plutôt saine. Donc, il faut espérer que ça continue comme ça, quoi.
Tu vas vite changer de ton quand ils vont nous annoncer les NFT Peridot.
Ah bah non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr.
Alors, on nous dit aussi dans la chatroom, Niantic a surtout fait Ingress avant de se soumettre au grand capital. Ingress, c'était quand même des données envoyées à Google hein, aussi. Donc, bon, je ne sais pas si c'était tellement...
Bon, donc je reviens sur la philosophie.
C'est ça. la troisième annonce qui est notable, qui est toujours un petit peu dans ce domaine industrie et nouvelles initiatives, eh ben c'est cette annonce de Epic et Lego qui unit leurs forces pour créer un métavers, enfin un endroit dans le métavers pour les enfants.
Mais du coup, on parle de métavers, du coup, on parle du métaverse Facebook ou...
Non, mais Facebook, c'est pas... Bon, on va faire plus simple. On va dire, il crée un univers 3D pour les enfants, pour pas partir okay. dans, les, dans les débats sur le métavers.
D'accord, c'est pas quelque chose d'intégré à la plateforme de Facebook, ok, c'est vraiment quelque chose
pas,
de...
Non, mais il n'y a pas de plateforme de Facebook, c'est des standards qu'ils veulent établir et qui seront possiblement implémentés dans 5 à 10 ans. Et ça n'est ouais. rien qui existe là aujourd'hui, tu vois. Donc, ils veulent travailler avec tout le reste de l'industrie pour qu'on ait des standards interopérables pour que les univers 3D puissent interagir les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui existe. C'est juste des intentions et des choses qu'ils veulent développer. Donc, ouais. quand Epic et Lego disent « on veut notre bout de métavers avec ça », c'est peut-être un moyen d'utiliser un buzzword, mais aussi ouais. l'idée que, oui, si le métavers un jour existe, qui est des univers interconnectés, des univers 3D interconnectés, c'est-à-dire qu'on pourrait passer de, j'en sais rien moi, ce que deviendra Fortnite à ce truc Lego, à un univers de Facebook, etc., comme on passe d'une page web à l'autre, eh ben, ce truc Lego et Epic pourrait faire partie de cet ensemble, quoi qu'il devienne.
Parce que là, du coup, au final, on parle d'un MMO en VR.
Bah, on ne sait pas vraiment, en fait. Ils ne donnent pas énormément de détails, mais le concept, ça serait un univers 3D destiné aux enfants dans l'univers Lego construit par Epic. Et même si ça peut sembler un petit peu vague, vu ce qu'Epic a fait avec Fortnite et mm-hmm. vu les essais, enfin ce qu'a fait Lego dans l'univers du jeu vidéo et ce qu'est Lego physiquement, hein, tout simplement, moi je crois qu'il y a énormément de choses à faire. Évidemment, certains vont penser à Minecraft. Moi je crois que ça pourrait être un petit peu comparable par certains aspects, mais aussi très différent. Les jeux Lego sont souvent beaucoup plus directifs, narratifs, des trucs d'aventure classiques. Et là, créer un univers, quand on dit MMO, on pense tout de suite à leveling, objets à grinder, etc. C'est pas ce que j'imagine là-dedans, moi, mais qui sait, hein, peut-être que ça sera...
Moi, je me demande s'ils veulent pas essayer de se positionner en face de Roblox.
C'est possible. Roblox, c'est quand même bien chargé, hein, niveau image, parce que dans Roblox, on peut créer ses propres jeux. Il y a beaucoup d'enfants qui créent des jeux et la monétisation de ces trucs est bien, bien cradoc. Je ne sais pas s'ils voudront des choses qui soient créées par les utilisateurs. En même temps, l'essence de Lego, c'est un petit peu ça,
bah,
pouvoir
ça.
Créer ce qu'on veut. Il y a Epic derrière qui, moralement, on va dire, au niveau des monétisations, des systèmes de monétisation, est un petit peu plus clean quand même. Je pense qu'ils éviteraient les trucs de Roblox. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça pourrait être ? J'en sais rien. Mais Lego, c'est des univers vidéoludiques quand même cool. Et puis, c'est assez... comment dire ? C'est presque étonnant qu'ils ne s'y mettent que maintenant. Créer un univers 3D pour les enfants avec une esthétique et une ambiance Lego. Et pour faire ça, je pense qu'il y a peu de partenaires qui soient plus, comment dire, idéaux que Epic, quand on sait à quel point Fortnite est devenu ouais. un truc vaste et presque comment dire, c'est plus qu'un jeu vidéo Fortnite, quoi, c'est un truc avec des événements pop, etc. Donc, t'as l'air encore un petit peu dubitatif.
Je vais faire ma vieille rabat-joie. Non, en fait, sur le papier, pourquoi pas ? Moi, je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Un Fortnite-like à la sauce Lego, orienté enfant. Après, je regardais, il y avait un des articles que tu avais mis en lien chez Gamekult qui disait que le communiqué parlait de protéger les droits des enfants à jouer en faisant de la sécurité et du bien-être une priorité. Je suis toujours...
On n'est pas Roblox, hein, on vous assure, on n'est pas Roblox.
Oui, et puis, tu sais, quand tu crées une bulle où tu dis c'est vraiment que pour les enfants, il n'y a aucun risque, sous-entendu, vous inquiétez pas les parents, vos enfants vont pas tomber sur personnes mal intentionnées. Ouais. Et moi, je me dis toujours, et c'est un débat qui avait déjà eu lieu sur les tentatives de réseaux sociaux pour enfants qui avaient été faites notamment par Facebook, si je ne dis pas de bêtises, c'est que malheureusement, en général, ce genre de bulles deviennent des zones de chasse idéales pour ces prédateurs-là. Et quels moyens tu mets derrière pour vraiment sécuriser ? Donc, sur le papier, pourquoi pas ? Après, moi, j'ai besoin d'en savoir plus pour me prononcer, quoi. Lego fois Epic, effectivement, c'est sexy. Après, le côté, on veut en faire un terrain de jeu 100% safe pour les enfants, qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, c'est clairement une annonce. Où j'ai l'impression que ça dépasse un petit peu le cadre de l'annonce, ses préoccupations, même si oui, il faut peut-être se les poser à l'avance. En même temps, c'est pas comme si ces lieux n'existaient pas déjà, tu vois. Les ouais. enfants, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de parc dans la ville qu'ils vont pas sortir dans la rue, tu vois. Donc,
bien sûr,
ils sont déjà sur Insta, sur Fortnite, sur partout,
oui.
sur Roblox.
Donc je trouve que c'est bien qu'il y ait vraiment une prise de conscience là-dessus et surtout qu'ils donnent des outils, parce qu'ils parlent hein, de contrôle parental, etc., qui donnent des outils aux parents qui sont peut-être moins avertis sur les usages numériques que nous, on peut l'être, mmh. et peut-être des outils un peu plus abordables, un peu plus compréhensibles pour les personnes qui sont pas tech-savvies. Pour la protection de leur enfant, moi je trouve que c'est bien. Et ouais, je trouve que c'est quand même deux entreprises qui ont plutôt une bonne image. Et je veux vouloir.
Tu veux vouloir avoir confiance.
Je veux vouloir, ouais, qu'ils ont de bonnes intentions.
Écoute, on verra quand on en saura un petit peu plus. C'est clairement encore très très tôt dans l'initiative. Moi, je pense que ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant, quoi.
Oui. Quand on voit, comme tu dis, hein, Fortnite, enfin, voilà, c'est what's next.
Exactement. Entre parenthèses, juste un mot pour signaler que en même temps quasiment que cette annonce, on a aussi eu une annonce d'investissement de Lego et Sony dans Epic Games, $1 milliard chacun. Sony avait déjà investi un petit peu d'argent chez Epic. Il reste très, très minoritaire hein, dans la boîte. Je vous avoue que je ne suis pas convaincu de savoir ce que ça veut dire pour une société comme Sony d'investir des sommes minoritaires chez Epic, parce qu'ils n'ont évidemment pas de contrôle sur la boîte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si Epic fait de l'argent, Sony va faire de l'argent aussi. Donc, c'est peut-être simplement ça, le fait qu'ils aient une certaine confiance dans la boîte. Et puis, le partenariat avec Unreal Engine. On a déjà parlé d'Unreal Engine 5 la semaine dernière, qui est vraiment un truc qui semble monumental. Mais bon, pour Sony en tant que développeur de jeux vidéo, est-ce que ça veut dire on encourage nos studios à utiliser Unreal Engine ? Est-ce que ça veut dire on l'impose ? Non, a priori, je n'imagine pas. Surtout qu'ils ont plein de trucs à eux, hein, que ce soit le Decima ou d'autres trucs du genre. Mais c'est quand même hyper intéressant quoi, de voir que Sony a investi chez Epic au lendemain du lancement de Unreal Engine 5 en plus, et Lego a investi aussi. Un autre, oui, encore un truc intéressant. Il y a plein de trucs intéressants qui se passent dans le monde. Et bien, cet autre truc intéressant, c'est que vous pouvez aujourd'hui, dès aujourd'hui, hein, genre tout de suite là, maintenant, elle sent le truc venir, vous pouvez, sans attendre un instant, prendre votre téléphone là tout de suite et aller sur un site web incroyable qui vous permet de faire un truc qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a, je sais pas, à peine 15 ans. Et ce truc complètement fou n'est pas directement lié aux jeux vidéo, mais d'une certaine manière, si vous écoutez cette émission, c'est un petit peu pour vous lié aux jeux vidéo. Et ce qu'on se demande tout de suite, c'est combien de temps je vais pouvoir continuer cette introduction sans dire la chose que je veux vraiment dire, c'est-à-dire parler de Patreon. Vous pourriez soutenir cette émission par Patreon tout de suite, là, maintenant, en une seconde. Ou alors, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, et vous dites « Patrick ». Et là, vous dites « Patrick, est-ce que je voudrais lui payer une bière ?» Il a l'air sympa comme ça, il est marrant, il fait des blagues pourries dans l'émission. Allez, ça vaut bien une bière, une pizza, j'en sais rien, un petit truc, bah, un café. Hop, vous dites « je voudrais bien lui payer un petit café ». Comment vous pouvez faire ? Vous allez sur patreon.com/rdvjeux et là, vous pouvez soutenir le rendez-vous jeu et faire en sorte qu'il existe pour tous les auditeurs, vous y compris. Et en plus, vous avez droit à des petits bonus sympas comme des contenus supplémentaires, vous avez vos remerciements dans l'émission. On vous remerciera la semaine prochaine si vous soutenez maintenant. Et puis, les émissions sans pub, les timecodes, enfin plein de trucs, bref. Moi, perso, je ne veux pas vous influencer, hein, mais je pense que ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil au moins. Donc, vous allez sur patreon.com/rdvjeux quand vous rentrez chez vous, ou même maintenant tout de suite sur votre mobile, et vous pouvez devenir patriote. Un grand merci à tous ceux et celles qui le font déjà.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
C'était trop long ou pas assez long? Ou qu'est-ce que t'en penses, mon introduction bizarre là, à la partie patriote, Eskia?
Alors, moi, j'ai trouvé ça très bien. Ce qui me perturbe, c'est que tu parles d'introduction alors qu'on en est déjà à quasiment la moitié de l'émission.
Non, mais... L'introduction à la partie patriote, tu vois. J'ai essayé de faire durer un petit peu plus longtemps, juste parce que c'était marrant, tu vois. C'est la blague qui continuait trop longtemps. Et c'est très difficile de trouver la limite entre la blague qui dure trop et la blague qui dure juste le bon moment quand elle s'allonge.
Donc, oui, je suis d'accord. Et en plus, c'est toujours compliqué de parler d'argent, surtout pour nous, les Français. On a beaucoup de... mais j'ai plus le mot de quand on est gêné de parler
tabou.
De quelque chose. Oui, voilà, merci. On a beaucoup de tabous par rapport à ça, donc c'est jamais évident. Alors que c'est indispensable pour permettre aux petits créateurs, bien sûr, pour le bonheur.
Ce que tu es en train de dire, c'est que les gens qui sont de bons citoyens soutiennent le rendez-vous jeu sur Patreon, c'est ça?
Je n'ai bien évidemment jamais émis une idée contraire.
Bon, parlons plutôt des jeux auxquels on joue en ce moment. Il y a plusieurs jeux auxquels on joue en ce moment et je vais te laisser commencer parce que, alors, le deuxième, je vois de quoi il s'agit. Le premier, t'as écrit Layton Catriel. C'est la fille de Layton, c'est ça? Mais il n'y a pas de jeu qui s'appelle Layton Catriel.
Alors, en fait, le nom complet de « Mais j'avais la flemme », c'est « L'aventure Layton, Catriel et la conspiration des millionnaires
». Tout à coup, je comprends pourquoi tu n'as pas souhaité avoir le nom en entier.
Très bien. On aurait pu renommer ça l'aventure des élections, Mélenchon et la conspiration des millionnaires, mais...
Ah, c'est pas mal, la conspiration des millionnaires, ouais, Catriel et la conspiration des millionnaires. Ce que tu dis, c'est que c'est un jeu qui se préoccupe de la condition ouvrière, c'est ça?
Ouais, vite fait. Hein. On est quand même dans la petite bourgeoisie anglaise. Bon,
c'est la bourgeoisie.
Ils connaissent pas trop le problème du chômage.
D'accord, très bien.
Et écoute, c'est la suite de Layton, mais effectivement, c'est sa fille qui s'appelle Catriel qui reprend en gros l'affaire de son père et qui mène ses investigations. Alors, c'est un jeu qui n'est pas tout récent puisqu'il était sorti en 2017 sur 3DS et sur iPad et ils l'ont ressorti sur Switch en novembre 2019. Donc, tu vois, toujours à la pointe de la nouveauté.
Oui, c'est ça, la pointe des dernières nouveautés.
Mais en fait, j'ai toujours fait les Layton, j'ai toujours adoré. Et celui-là, ça faisait un moment, donc ça faisait depuis le 8 novembre 2019 que je me disais ce serait bien que je le fasse. Et je cherchais des jeux à emporter avec moi en voyage. Et du coup, l'occasion s'est présentée à Noël, je l'ai acheté. Et je suis en train d'y jouer par petites touches, parce que c'est vrai, enfin, j'imagine que tu connais... le concept du professeur Layton.
Alors de loin, hein, je t'avoue, c'est l'une des séries auxquelles j'ai jamais touché. Donc,
Alors en gros, tu joues un détective, donc là, une détective qui mène une enquête, mais en vrai, l'enquête, elle est complètement scénarisée, c'est-à-dire que c'est pas toi qui... C'est pas comme dans Ace Attorney, alors je sais pas si t'as déjà joué à Ace Attorney.
Oui, j'en ai fait.
Oui, voilà, et c'est pas toi qui mène l'enquête, on va dire. En fait, tu suis l'enquête, et de façon ponctuelle, en déclenchant des dialogues ou en interagissant avec des objets dans les décors, tu fais apparaître des petites énigmes qui sont des puzzles des petits casse-têtes que tu dois résoudre, qui n'ont rien à voir avec l'enquête sur laquelle tu es en train de faire. Ça peut être, j'en sais rien, faire un jeu de miroir pour amener la lumière d'un point A à un point B. Ça peut être combien de robinets je dois ouvrir pour réussir à remplir tel pot. Enfin, voilà, c'est vraiment plus des petits exercices de maths. Tout ça dans un enrobage hyper mignon, dessin animé, très, très Ghibli au final, visuellement. Donc voilà, c'est du puzzle game tranquillou, c'est mignon tout plein, c'est pas trop prise de tête parce que ça reste quand même à destination d'un jeune public, donc c'est pas des enquêtes qui sont incroyables. Mais moi je trouve que voilà, c'est assez chouette, assez pour se torturer un petit peu les méninges avec un système d'indices si vraiment tu t'en sors pas. Donc ça c'est la formule Layton, ça a toujours été comme ça. Dans cet épisode 4L, il y a 2-3 petites choses qui changent. Déjà, c'est pas une enquête, une histoire que tu suis du début à la fin, c'est découpé comme en épisode avec des mini enquêtes beaucoup plus courtes et donc du coup que tu résous aussi beaucoup plus rapidement. Du coup, je suis un petit peu moins fan, ça me sort un petit peu du truc. Donc même si tu retrouves les personnages secondaires d'une enquête à une autre, je trouve que ça a un peu moins de saveur que quand c'était une enquête au complet que tu menais du début à la fin. Donc voilà, et je trouve que au-delà de ça, la saga a un peu perdu de sa superbe en termes de qualité purement visuelle. Je trouve qu'on est un petit peu en dessous de. Alors après, pourtant, j'ai l'impression que c'est, enfin, a priori, c'est le même studio, etc., que les épisodes précédents. Mais voilà, cet épisode, je le trouve un petit peu en dessous. J'ai un peu plus de mal à m'y plonger. C'est pas mal, mais c'est clairement pas le meilleur Layton de la série, quoi. Après, pour commencer un Layton, c'est une bonne porte d'entrée. En plus, il est dispo sur Switch. Donc, c'est plus simple aujourd'hui de jouer à un jeu Switch que de jouer à un jeu 3DS.
Très bien. Donc, Layton et la... Comment, 4L et la conspiration des millionnaires.
C'est ça.
Super. Et l'autre jeu auquel tu joues, c'est Young Souls. Alors moi, quand j'entends Souls, tu te doutes bien de ce à quoi je pense. C'est quoi Young Souls? C'est un peu plus récent, hein, on parle de seulement, il est sorti quand, en août? Non, un petit peu plus récent.
Alors, il est sorti là au mois de mars, il me semble.
Ah, il vient de sortir, ok, d'accord.
Alors en fait, le truc, c'est qu'il était en exclu Stadia depuis l'été 2021. Donc autant te dire que personne n'y avait joué.
On va se faire des ennemis encore, mais c'est pas grave.
Bon, enfin, voilà.
Ça va.
Alors... Sans vouloir faire de pub pour Super Gamerside, on prévoit d'inviter l'équipe, puisque en fait, c'est des anciens d'Ankama qui ont créé. Donc, je les connais, moi, les gars qui ont créé ce studio-là, qui s'appelle 1P2P. Ils ont créé ce studio à côté de chez moi, hein, dans le nord de la France, et ça fait déjà une paire d'années qu'ils travaillent sur ce jeu-là. Donc, on aura l'occasion d'en parler avec eux et d'essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ce choix de Stadia. Est-ce qu'ils le regrettent? Est-ce qu'ils ont des chiffres, est-ce qu'au contraire c'était un super truc pour se propulser? Je sais pas, j'ai pas le détail pour l'instant.
Spoiler, mais donc du coup, ils vont pas dire que c'était pourri, hein.
J'imagine que non. Et donc là, il est sorti.
Ce qui risque de dire, c'est ouais, on espérait que ça ait un petit peu plus de visibilité, donc on est un petit peu déçu sur ce point, machin, mais quand même. Enfin bon, bref.
Et puis ça dépend toujours quand est-ce que tu signes tes contrats. Il y a peut-être un moment où tu te disais que Google, Stadia, forcément c'était un bon deal, et puis.
C'est ça. Et puis même, et puis voilà. Ça se trouve, Google leur a donné suffisamment de sous pour pallier une partie des coûts de développement et ça leur convient très bien. Enfin bon, bref, on ne va pas faire l'interview sans eux avant qu'ils soient là.
Mais en tout cas, aujourd'hui, ce jeu-là, il est dispo sur Switch, PS4, Xbox et surtout, il est dispo sur le Game Pass.
Ah oui?
Donc, il est dispo sur le Game Pass. Donc, faut vraiment pas hésiter à aller y jouer. D'autant que, a priori, la version Switch n'est pas forcément ultra conseillée parce qu'il y a quelques petits bugs. A priori, il y a une mise à jour de la console au moment où le jeu est sorti sur Switch et ça a fait émerger plein de petits soucis. Les pauvres. Moi, j'y ai joué sur Switch. J'ai effectivement vu quelques petits bugs, mais ça m'a pas empêché de finir le jeu. Donc, rien de grave. Mais effectivement, si vous pouvez vous permettre le choix, jouez-y peut-être plutôt sur PC ou sur console next gen. Sur le principe, c'est un jeu de donjon, en fait. Hein. C'est on incarne des jumeaux. Alors, c'est un jeu que tu peux jouer soit à deux, soit en solo, et puis tu peux jouer le frère ou la sœur en alternance. Ils ont chacun leur petit inventaire. Et après, bah, c'est comme du hack and slash. Donc, tu fais des donjons en scrolling horizontal, un peu à l'ancienne, comme ça. Mmh. Et puis, tu dois soit arriver au bout du niveau, soit battre un boss à la fin. C'est vraiment très simple. Et t'as une histoire à suivre, t'as plusieurs mondes à parcourir, plusieurs donjons à faire. À chaque fois que tu fais des donjons, bah tu gagnes de l'expérience, tu gagnes de l'argent qui te permet d'améliorer ton personnage ou ton stuff. Enfin voilà, la recette, elle est vraiment ultra classique. Ce qui est très sympa, c'est que d'un point de vue gameplay, moi j'ai trouvé que c'était très agréable à jouer, très fluide, et surtout visuellement la direction artistique du jeu, elle est juste magnifique. Il y a deux artistes qui sont derrière ce jeu-là. Il y a Xavier Houssin qui a travaillé, et je pense qu'il travaille encore chez Ankama, qui est un directeur artistique de folie. Enfin, juste ce qu'il fait, c'est trop trop beau. Moi, j'ai toujours adoré ce qu'il fait. Et tout ce qui est background, les décors d'arrière-plan, c'est fait par Joachim Leclerc, aussi connu sous le nom de Mojo Jojo. Tout ça, c'est des gens qui viennent d'Ankama à la base, mais qui ont travaillé pour un P2P, qui lui aussi fait un travail formidable. C'est coloré, c'est déjanté, c'est un petit peu vulgaire, pas trop, mais un petit peu comme on aime. Ouais,
c'est vraiment Super Gamerside, hein, on est d'accord.
Voilà, dans les dialogues, il y a des gros mots. Donc moi, j'ai trouvé que c'était très rafraîchissant. C'est un jeu qui se fait en une grosse dizaine d'heures. Ça change. Je trouve que c'est des univers, c'est entre le punk et le médiéval. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très rafraîchissant. Ça se fait bien. C'est pas très difficile. Enfin, moi, j'y ai joué en mode. J'ai pas joué en mode difficile. C'est peut-être autre chose en mode difficile.
Ah oui, d'accord.
Je conseille.
Mais du coup, au niveau du gameplay, on a un gameplay qui est, oui, enfin, j'ai l'impression de voir une sorte de dungeon crawler, mais en mode beat'em all, quoi.
Oui, c'est ça. J'ai dit hack and slash, mais c'est peut-être plus du beat'em all. Ouais. Alors eux, ils définissent ça comme du beat'em all, ouais. En
d'accord.
Effet.
Et du coup, le gameplay est fun. Ça a l'air assez complexe, avec plein d'attaques différentes, des parades, des contres, et puis des objets à la. Enfin, ça a l'air d'être presque un looter, non? Il y a plein d'armes différentes. Alors, qu'on peut choper. C'est cet aspect Diablo.
Moi, je trouve que c'est pas très complexe en termes de gameplay. T'as plusieurs types d'armes qui vont pas réagir de la même façon. C'est sûr que si tu te bats avec épée bouclier, tu vas être un peu plus rapide que si tu te bats avec l'arme à deux mains. Les armes spéciales ont des coups uniques. Donc, par exemple, ils vont invoquer une créature ou tu vas faire une attaque spéciale. Ce qui fait qu'effectivement, t'as des attaques un petit peu particulières, et t'as ce côté random, comme tu dis, dans les looters. Après, c'est pas forcément le cœur du jeu, mais voilà, t'as un petit côté craft où tu peux effectivement tomber sur des armes que tu vas pouvoir améliorer, qui vont gagner des pouvoirs supplémentaires. Mmh. Mais je trouve que ça reste vraiment... tu sais, c'est pas un jeu de grind où tu dois te prendre la tête à jouer pendant des heures pour avoir la meilleure arme du monde. Mmh. Pareil, effectivement, il y a une mécanique de défense. Si tu pars le coup au bon moment, tu vas déstabiliser l'adversaire en face, regagner un petit peu de mana, et du coup derrière pouvoir faire une attaque intéressante qui va lui faire perdre plus de points de vie qu'une attaque normale. Donc ça n'a rien de révolutionnaire, ça utilise toutes des mécaniques qui existent déjà, mais qui les réutilisent bien et de façon efficace. Et je trouve que pour un premier jeu, parce que c'est le premier jeu de ce studio là, c'est vraiment une réussite, quoi. Tu sens que c'est un jeu soigné, c'est un jeu qui est généreux, qui est fait avec de l'amour. Voilà, et puis bah c'est un jeu français, indépendant français, donc moi, je pars toujours du principe qu'il faut soutenir, surtout quand c'est réussi, quoi. Donc voilà, bien. Moi là, je vois les images que tu diffuses, visuellement, je trouve ça vraiment très très chouette, quoi.
En plus, sur le Game Pass, je vais aller me le downloader.
Et ouais.
Très bien, donc ça s'appelle Young Souls, et c'est le studio au 1P2P, 1P2P. Donc voilà, pour les jeux d'Esca, moi, il y a trois jeux auxquels j'ai joué, qui sont... Alors, il y en a un qui est récent, mais deux qui sont plus ou moins récents, on va dire. Je vais commencer par le premier, qui s'appelle Patrick's Parabox, qui vient de sortir. Patrick's Parabox, j'y ai joué... Enfin, j'aurais pu vous dire que j'y ai joué uniquement parce que c'est Patrick dedans. mais en fait, non. J'en ai entendu parler dans différents podcasts et dans différents sites de presse, sur différents sites de presse. Et j'ai été vraiment intrigué. C'est un jeu qui est difficile à décrire. Mais c'est un jeu qui est un petit peu mind-bendy, mind-fucky. dans le même type de... En fait, c'est un petit peu un mélange... Comment dire ? Pas un mélange, mais tu retrouves des caractéristiques mindfucky d'un truc comme Baba Is You.
C'est exactement à ça que ça me faisait penser. Ouais.
Mais il y a aussi du Portal un petit peu, du ou plutôt peut-être même que le titre fait référence à Stanley Parable.
Tu vois,
c'est vraiment... Alors, bon, je vais essayer
de décrire le trailer me fait flipper, hein.
Pardon ?
Je suis pas bien en voyant le trailer.
Alors, le principe du jeu, c'est vous êtes une sorte de petite de petit carré qui est dans un niveau carré et il faut amener une boîte, une box qui est un carré, à un endroit du niveau en le poussant et vous devez ensuite aller à un autre endroit du niveau. Il y a des petites traces sur le sol et vous devez donc amener les trucs aux endroits définis, vous et la boîte. Donc ça, c'est un truc qui est un petit peu un principe de base. Il y a plein de jeux comme ça. Je ne me souviens plus comment s'appelait le premier, mais c'est des petits jeux de puzzle où il faut pousser les boîtes et on ne peut pas les tirer. Donc si vous amenez une boîte contre un mur, bah, elle est un petit peu coincée là, dans cette direction, et vous ne pouvez plus la déplacer. Donc il faut bien déplacer de la bonne manière, passer par les bons endroits. Bon, ça c'est classique. Là où Patrick's Parabox est différent, et là où il devient mindfucky, c'est que certaines des boîtes que vous devez déplacer sont des mini-niveaux. Et vous pouvez rentrer dans ces niveaux si vous les amenez à un endroit où vous ne pouvez plus les pousser et que vous êtes à un endroit de la boîte où il y a une entrée, eh ben, vous le coincez contre un mur et quand vous essayez de le pousser, ben vous allez rentrer dans ce mini-niveau qui va du coup zoomer à l'écran et vous serez dans ce mini-niveau. Et vous pouvez du coup, à l'intérieur de ce niveau, faire des trucs, puis en ressortir pour revenir dans le niveau au-dessus. Donc ça, c'est le principe du truc. Et ce gimmick, c'est la base du... Par exemple, il peut y avoir dans un... Il faut, dans le niveau, amener une boîte du niveau à l'intérieur du mini-niveau, parce qu'il y a sa place indiquée à cet endroit-là. Et puis ensuite, il faut ressortir du mini-niveau et revenir à la place où vous deviez aller dans le niveau d'au-dessus. Et donc ça, c'est le gimmick de base. Mais bien sûr, comme tous les jeux de ce type qui emploient ce genre de gimmick, eh ben après, il l'explose puissance 14 et il y a tout plein de trucs méga mindfucky dans l'exploitation de ce principe de... C'est même pas un principe de gameplay, mais si, ce principe de gameplay de jeu. Et ça vous provoque des situations complètement folles. Et c'est... Comment dire ? Ça reste un jeu de puzzle. Donc, si vous n'aimez pas les jeux de puzzle, ça ne va pas être pour vous. Mais si vous aimez bien ce genre de truc, ça peut valoir le coup de tester. En plus, il y a une démo sur Steam. Il est dispo sur Steam et Itch.io. Donc, essentiellement sur Steam, sur PC. Mais il y a une démo qui offre quand même 10-15 niveaux. Donc, vous pouvez aller voir ce que ça donne sans forcément le payer. Moi, je pense que ça vaut le coup de le tester, juste pour voir ce que c'est, parce que c'est vraiment un truc différent, comme on l'a vu avec... Et c'est marrant parce que autour du niveau dans lequel vous êtes, on voit ce qu'il y a en dehors du niveau, même si vous ne pouvez pas en sortir. Et du coup, quand vous rentrez dans un niveau qui peut être récursif, eh ben vous allez voir autour du niveau dans lequel vous êtes votre tête à l'extérieur parce que vous êtes... Enfin bon, bref, c'est...
Mon Dieu.
C'est magnifique. Mais c'est vraiment pas mal, c'est malin.
Ouais, le concept est ultra intéressant.
Ouais.
Ouais.
Je comprends vraiment pourquoi tout le monde en parle. C'est intéressant, sympa, bien foutu. C'est une personne qui l'a fait, qui s'appelle Patrick quelque chose. C'est vraiment, vraiment sympa. Ça s'appelle Patrick's Parabox. Et oui, c'est au niveau des... pas aussi génial que Baba Is You, génial dans le sens un génie, mais au niveau des Baba Is You, des Portals, même d'une certaine manière de Stanley's Parable, un petit peu. Donc voilà, Patrick's Parabox, je vous le recommande.
Et je suis assez étonnée, je suis allée voir le prix là sur Steam, il est à 17 euros, un petit peu, quasiment 17 euros. Je suis assez étonnée parce que c'est pas le genre de prix auquel on s'attend pour ce type de titre. Tu compares à Baba Is You, en général, c'est des titres qui sont entre 10 et 12, 13 euros. Je suis assez étonnée qu'il soit, entre guillemets, aussi cher. Je remets pas du tout en question, hein. Moi je trouve qu'il faut payer... faut payer le prix des jeux. Mais c'est vrai que je suis assez étonnée. Est-ce que tu sais, en termes de contenu, combien d'heures de jeu ça représente?
Ça, je ne saurais pas te dire, je t'avoue. Moi, je suis dans une configuration familiale aujourd'hui où ce n'est pas la durée des jeux qui me préoccupe. Oui. Je pense qu'il y a quand même un bon temps de jeu. Mais ce que je dirais à ça, c'est qu'il y a la démo aussi. Tu vois, donc tu peux vraiment le tester gratuitement si tu veux. Et tu n'es pas obligé de payer si ce n'est pas ton truc. Donc,
ouais. Donc ça, non, mais je pense que je vais.
Mais c'est vrai que c'est plus cher
que
j'aurais pensé a priori. Tu vois, quand on me l'a décrit, je me suis dit oui, c'est un jeu à 10 balles, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu plus cher. Donc voilà, Patrick's Parabox. Un autre jeu auquel j'ai joué, c'est un jeu dont on parlait la semaine dernière et même celle d'avant, c'est Tiny Tina's Wonderlands. J'avais envie d'un jeu un petit peu fun et bête. Et j'ai bien eu mon truc. En fait, j'en parlais la semaine dernière. Je disais, j'aimerais bien, avec Konala, j'aimerais bien jouer à un jeu de tir, et donc je ziotais Tiny Tina's Wonderlands, et il y avait comment il s'appelle ? Je l'ai acheté en plus. RoboQuest, voilà, dont elle nous parlait, qui était un jeu sur lequel elle avait bossé, enfin, en tant que PR marketing, qui est un roguelite en fast FPS, qui répond tout à fait à sa description, qui est vraiment fun. Et pareil, donc j'ai passé un bon moment sur RoboQuest, et il y a plein d'armes différentes qui sont vraiment marrantes, c'est le genre de truc qui garde la fraîcheur du jeu, et qui est pas cher en plus. Et Tiny Tina's Wonderlands, que j'ai acheté aussi, et qui est vraiment sympa en fait. J'avais pas accroché à Borderlands 3, mais tout ce que décrivait J.K. Et tout ce dont j'ai entendu parler à propos du jeu, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que l'ambiance... pour moi, fonctionne mieux. Oui, c'est les blagues un petit peu crasses. Même, à vrai dire, c'est pas aussi crasse que dans le 3, je trouve. J.K. dit, ouais, c'est la même chose. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. J'avais été moins convaincu par le Borderlands 3 que par Wonderlands. Et c'est juste, c'est vraiment un bon moment fun. Et le contexte, le gimmick, en fait, de « on est en train de faire une partie de jeu de rôle », avec le ton qu'ils ont dans les Borderlands, bah, ça marche super bien, quoi. C'est limite, il fait partie de ces jeux où... on a envie d'écouter tous les dialogues parce que c'est juste marrant. Il y a des trucs qui te prennent à revers de temps en temps, ils te laissent penser que tel truc va se passer ou que tel machin va se passer, et puis en fait, ils font autre chose. Il y a des blagues je ne sais plus comment ils s'appellent, je vais juste vous en dire une. À un moment, on est dans le niveau du tutoriel, et puis on arrive devant un tronc d'arbre qui est tombé sur la route. Et à ce moment, arrive sur l'écran pour sauter, appuyer sur espace. Et donc là, tu as une option de dialogue qui dit « Est-ce que tu veux lancer un sort pour l'identifier, cet arbre ?» Et Tiny Tina, qui est donc la Dungeon Master, elle dit « Ah, tu lances le sort et tu l'identifies comme Jumpus Tutorialus, tu vois, c'est vraiment le truc. » Et bon, ça a l'air con quand je le dis comme ça, mais c'est le genre de truc qui te fait qui te fait genre « Ah ouais, c'est marrant, ça te fait un peu sourire, tu vois, un sourire en coin. » Et c'est constamment ça dans le jeu. T'es constamment en train d'avoir un petit sourire en coin. C'est pas les trucs les plus hilarants que t'aies vu de ta vie dans le monde du jeu vidéo, mais c'est toujours rigolo et ça fonctionne toujours. Donc, je suis plutôt content de mon expérience. Je sais pas si je vais avoir le temps d'y jouer autant que je voudrais. J'ai pas beaucoup joué encore, donc ça se trouve, ça s'effondre après, mais sur les premières heures, c'est sympa. Un petit truc quand même, comme toujours, les jeux sur PC, c'est super relou pour des petits détails. J'ai lancé le jeu à la base, il s'est lancé en français, parce que mon OS est en français, et c'était bien parce que le clavier était en français, et on pouvait mettre la langue des dialogues en anglais, mais moi j'aime bien avoir les jeux entièrement en version originale. Donc là, c'était juste les voix qui étaient en anglais. Donc, je suis ressorti du jeu, je suis allé chercher comment le mettre en anglais. Il y a dans le Epic Game Store un moyen d'ajouter des lignes de commande, enfin des arguments supplémentaires au lancement du jeu. Donc, tu trouves le truc sur Internet, tu fais moins language égale EN, tu lances le jeu en anglais. Et là, par contre, oui, le jeu est en anglais, mais tout à coup, il estime que ton clavier doit être en QWERTY. Donc, tu dois faire le remappage qu'on doit tout faire.
C'est insupportable.
C'est super pénible. Enfin, super pénible. Bon, il y a des choses qui sont pires dans la vie, mais je veux dire, oui, c'est bien casse-couille. Et puis, il y a toujours ce truc, je ne sais pas, le petit indicateur de quête, par exemple. Le jeu est fluide, tout va bien, mais le petit indicateur de quête, il est toujours un petit peu... il se balade, quoi, comme s'il n'était pas en 60 FPS comme le reste du jeu. Je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Il y a des petits bugs vraiment étranges, comme par exemple le fait que dans les menus, tu peux cliquer sur la flèche pour changer une option pour aller à droite, mais la flèche pour revenir à gauche, elle est genre un tout petit peu décalée, genre tu peux cliquer un petit peu à droite de la flèche, mais si tu cliques sur la flèche elle-même, bah ça marche pas. Tu vois, c'est comme si tu cliquais dans le vide. Et des petits trucs comme ça,
un petit glitch,
des trucs qui te gâchent pas le jeu, mais un peu pénible, quoi. Donc.
Et du coup, Tiny Tina, c'est un personnage qui vient de Borderlands à la base.
Ah oui, tout à fait, oui. Tiny Tina, c'est un personnage qui était dans Borderlands 2, je crois, qui est une enfant de 13 ans, qui évidemment dans l'univers de Borderlands, elle est un peu starbée. Et ouais, voilà un bon terme des années 80. elle est un peu barrée. Et elle est fan de jeux de rôle. Et il y avait déjà eu un DLC de Borderlands 2 qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait. Enfin bref, pendant qu'elle, c'était exactement ça. Et là, ils en ont fait un jeu en entier où il joue à Bunkers and Badasses. Et c'est un personnage là, qui est joué par Ashley Birch, qui joue aussi Aloy dans Horizon, et elle est mais incroyable, et c'est vraiment le personnage hyper emblématique. Elle est là, yeah, bunkers and badasses baby, c'est super. Tu vois, c'est fun, c'est marrant, c'est ludique, ça fonctionne vachement bien, quoi. Donc voilà, c'était sympa. On me dit entre parenthèses que RoboQuest est sur le Game Pass, donc bah écoute, je l'ai payé pour donner des sous, je savais pas qu'il était sur le Game Pass, mais c'est à tester. RoboQuest aussi, du coup, un petit fast FPS en roguelite, il est sur le Game Pass, vous pouvez le tester. Et le dernier jeu auquel j'ai joué, bah, encore sur le Game Pass, voilà, on y revient, c'est Life is Strange. Life is Strange True Colors, avec le bel accent français, que j'ai testé là, il y a deux jours. Je me suis dit, oh, j'ai envie d'un truc un petit peu cool, tranquille. Je vais me lancer Life is Strange. Je n'ai pas joué à Life is Strange depuis le tout premier, je crois. Et vraiment, quand on est fan des films indés américains, genre tendance The Perks of Being a Wallflower, tu sais, ce genre de truc, c'est pile ça, quoi. C'est à l'opposé de Euphoria.
C'est pas même si t'as quand même des thématiques, il y a quand même des thématiques un peu.
Oui, bien sûr, sûr. Mais c'est beaucoup plus. Tu sais, c'est le truc avec les menus. C'est des, tu sais, ces trucs où tu écris, c'est écrit au crayon. Et
oui,
ça...
en mode Notepad. Ouais.
Voilà, exactement. C'est ce genre de truc.
C'est comme ça depuis le premier.
Tout à fait, oui. Mais je veux dire, c'est cette ambiance. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu moins cringe que les précédents dans l'écriture. Parce que les précédents étaient... Enfin, moi, j'ai joué qu'au premier. C'est vrai qu'un des reproches qu'on lui faisait, c'est, tu sais, c'est les jeunes filles de 14 ans écrites par des mecs de 35, tu sais.
Oui. Ouais.
Et là, j'ai l'impression, alors bon, je sais pas vraiment le juger par moi-même, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins le cas. En tout cas, c'est bien écrit, c'est marrant, c'est mignon, c'est émouvant. Dans la première demi-heure, t'as déjà ta petite larme qui commence à venir parce que c'est un petit peu, voilà. Et puis, c'est juste, c'est un petit peu, comment, Walking Simulator, hein, comme toujours dans ces jeux-là, c'est beaucoup plus sur l'histoire que tu vas suivre que sur les éléments de gameplay. Mais les personnages sont engageants, bien construits. Ça, et puis il y a cet élément de surnaturel qu'il y a toujours dans les Life is Strange. Non, c'est bien. C'est vraiment, disons, ça va convaincre personne qui n'est pas a priori intéressé par Life is Strange, mais... si vous pensez que ça pourrait vous plaire, bah il est sur le Game Pass et ça répond à la demande, quoi. Donc voilà, c'est Life is Strange True Colors.
J'avais fait celui juste avant là avec les deux frères, je me rappelle plus comment ils s'appellent.
Captain Machin, je sais plus que oui.
Oui, c'est ça.
Non, Tell Me Why.
Oui, c'est ça, Tell Me Why. Et c'était assez chouette.
Pardon, juste pour répondre à la question de la chatroom, c'est pas le remaster du 1, True Colors. True Colors, c'est vraiment un nouvel épisode avec des personnages complètement différents qui n'a rien à voir avec le 1 ni avec le 2 d'ailleurs. Ni avec, Captain, c'est pas Captain Obvious, Captain quelque chose, je ne sais plus comment il s'appelle. C'était Tell Me Why ou Captain Truc qui était un mini épisode?
Alors non, en fait, et d'ailleurs, c'est Captain Truc là, comme tu les aventures extraordinaires de Captain Spirit, qui était un genre de préquel à Life is Strange 2. Donc c'est Life is Strange 2 que j'ai fait, pas Tell Me Why. Tell Me Why, j'ai pas joué.
Ok.
Et tu sais, j'ai toujours l'impression de qu'on retombe un petit peu dans le même problème que les jeux Telltale à une certaine époque, où c'est toujours la même recette. Et j'ai tendance à avoir un peu la nausée au bout d'un moment. Et je sais que typiquement là, celui-là, j'ai aucun doute sur le fait, enfin, sur tous les compliments que tu as eu pour lui. Mais j'ai l'impression que je sais déjà que je vais avoir l'impression d'avoir de jouer un jeu auquel j'ai déjà joué, et on devient très sélectif sur nos jeux. Toi-même, tu sais pourquoi. Et du coup, j'irai pas le tenter. En tout cas, là, pas dans les prochains mois, quoi.
Bon, je rappelle que moi, j'ai pas joué à ces jeux-là depuis le 1. Donc effectivement, c'est peut-être ça joue aussi, quoi. Donc voilà les jeux auxquels j'ai joué en ce moment. Je veux dire un mot sur Lego Star Wars, la saga Skywalker, qui, on en parlera peut-être mais Jules Dragomodo, qui est un des auditeurs, vient dans l'after show comme il nous l'a proposé pour les auditeurs qui sont patriotes. On va peut-être en parler avec lui, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui m'est un petit peu passé sous le radar. Il est sorti il y a quoi, une semaine, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bon, bah encore un jeu Lego Star Wars, ok, très bien, on en a déjà vu des millions, voilà. Et pourtant, j'en ai entendu que du bien sur tous les avis que j'en ai que j'ai lus et que j'ai vus. Alors, les notes sont pas forcément incroyables, parce que c'est un jeu Lego Star Wars, c'est pas un truc au niveau gameplay qui est complètement fou, mais le plaisir de jouer à Star Wars est complètement présent. Et en plus, c'est un jeu qui est hyper ambitieux, qui a souffert chez TT Games, son développeur, de problèmes de crunch qui ont été notés très clairement dans la presse, mais qui du coup retrace l'intégralité de la saga Star Wars avec les trois trilogies. On peut commencer au premier épisode de n'importe laquelle des trois trilogies. C'est pas forcément égal au niveau qualité dans tous les jeux, mais c'est vraiment cet humour. En fait, il mélange à fond le fun des jeux Lego Star Wars.
Lego, ouais.
Et avec cette approche un petit peu justement kid-friendly, où tu as les passages un petit peu peut-être problématiques pour les plus jeunes qui sont, tu vois, ils font une petite parabole ou une petite plaisanterie, et ils font pas exactement le truc qu'il y avait dans le film pour que ça soit marrant. Vraiment ce plaisir de jouer à l'histoire des jeux Star Wars, qui est retranscrite entièrement, chaque étape importante de chaque film est dans le jeu, en fait. Et donc, tu vas tout revivre. Donc, si tu es un peu fan...
Du premier au neuvième.
Voilà. Il y a les neuf, et tu joues, on va dire, je sais pas, à 90% de toutes les scènes du film, qui sont condensées, hein. Une scène qui va prendre 5 minutes va se jouer en 30 secondes ou une minute, tu vois, c'est vraiment tout petit. Mais tu revis en fait tout le film. Donc pour les gens qui sont fans de la série, ça peut vraiment leur parler, quoi.
Donc, pour transmettre à leurs enfants. Ouais, donc tu veux dire que, par exemple, ils vont éviter la scène où Luke Skywalker se fait couper le bras?
J'imagine qu'ils le font un petit peu. Moi, ce dont j'ai entendu parler, c'est la partie où Han Solo tire sur Greedo, tu sais. En fait, là, dans le truc, il lui jette une banane ou un truc du genre, tu vois. Donc, c'est vraiment... tout va bien, c'est pour les enfants, quoi.
Mais cette scène-là, elle avait... Enfin, je sais pas si on parle de la fameuse scène Han Solo shot first, mais...
Oui, bien sûr.
Ouais, parce qu'elle était déjà censurée du film.
Non, mais qu'il shot first ou shot Second, il lui tire quand même dessus.
Une donc, banane, quoi, ouais.
Voilà, alors que là, il lui balance une banane dans la gueule.
Et alors, est-ce qu'ils ont laissé Leia en esclave sexuelle de Jabba ou pas?
J'ai l'impression, oui. J'ai vu des extraits
aïe.
Mais elle se bat, tu vois. Elle, elle attrape les trucs et tu vois, elle se bat vachement activement dans le truc.
Donc, bien sûr. Modèle de femme forte incroyable, princesse Leia.
Tout à fait. Donc moi, franchement, j'étais à ça de l'acheter. Et puis, j'ai
gardé
ma collection de jeux. Mais...
Ah, le X-Wing dans Lego, là.
Ah ouais, non, mais c'est... Mais tu sais, vraiment, je me demande vraiment si on a déjà vécu dans notre vie de joueur, et Dieu sait qu'on a eu des belles années, hein, si on a déjà vécu une période de, allez, on va dire 4 mois, aussi intense en jeu inratable que ce début 2022. C'est invraisemblable. Ouais. Je crois que c'est la période la plus riche en GOTY de l'histoire du jeu vidéo. Alors, il y a peut-être eu des jeux qui étaient mieux que ceux qui sont sortis cette année, mais là, en 4 mois, si on fait la liste des jeux qui sont, tu vois, je vais dire immanquables...
Tu penses à quoi? Elden Ring, forcément?
Non, mais Elden Ring, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Moi, je faisais la liste... si tu veux, on va reprendre ensemble. Là, on va voir, hop, la liste des jeux sortis en 2022. Regardons ça sur les premiers mois, parce que maintenant, on les a vus et on sait de quoi il s'agit. Alors, en janvier, il n'y avait pas énormément de choses, mais il y avait quand même Pokémon Legends Arceus, ok, bon, ouais. Ça, c'est juste pour janvier. Février, Dying Light 2, Holy Holy World, Sifu, on descend un petit peu, Lost Ark, Dynasty Warriors 9, King of Fighters 15, bon, qui n'a pas énormément de bruit. Total War Warhammer 3, Horizon Forbidden West, Destiny 2 The Witch Queen, Elden Ring, évidemment. Là, en mars, on a eu Gran Turismo 7, Young Souls, tu vois.
Je me demandais si tu allais le citer.
Bien sûr. Tunic, tu vois, qui est passé,
oui.
Qui aurait été un jeu dont...
Qui était attendu.
Mais oui, non, mais qui était non seulement attendu, mais pendant une semaine, on parlait que de ça. S'il n'y avait pas eu d'autres choses dans la conversation, on en aurait parlé pendant un mois, je pense, de Tunic. Mm-hmm. Quoi d'autre? On pourrait parler de Norco, bon, Ghostwire Tokyo, pas forcément. Kirby and the Forgotten Lands, Tiny Tina's Wonderlands... je crois qu'on arrive au bout. Weird West, voilà, encore un jeu.
Oui, qui est, ouais.
C'est pas tous des jeux qui sont totalement incroyables, mais c'est tous des jeux qui vont se retrouver dans plein de listes de Game of the Year pour plein de gens, tu vois. Et puis Star Wars, Lego Star Wars de Skywalker Saga. Moi, franchement, alors, on a oublié Nobody Saves the World, il y en a d'autres. Je crois que j'ai rarement vu une période aussi riche, franchement.
Ouais, c'est une période très chargée, en effet.
Et bien sûr...
Après, je pense qu'on est aussi en sortie post-Covid et que ça joue son rôle.
Oui, non, bien sûr. Mais il n'empêche. Bon, ben voilà, donc, pour ces petits jeux dont on voulait vous parler, je pense qu'il est temps de faire un petit détour par le reste des news. On y va ?
Allez.
Hop. Ah, on se détend, ça va mieux. Reste des news. Witcher 3.
On se croirait dans une ville balnéaire dans un Final Fantasy.
Je prends, ça me va. Ça me va complètement pour couvrir le reste des news. Witcher 3, sa version next-gen, ne sortira pas tout de suite. Il ne sortira même pas en 2022, a priori, parce qu'ils reprennent le développement en interne. C'était un autre studio qui développait Witcher 3, version next-gen, enfin next-gen, current-gen, hein, PS5, Xbox Series. Et donc, il ne sera pas dispo tout de suite, parce que CD Projekt le reprend en interne, ça ne se passait pas. Peut-être pas aussi bien qu'ils ne l'espéraient. Et ils se sont dit, après Cyberpunk, on ne peut pas avoir un autre truc merdé. Donc, on va le reprendre en interne.
C'est sûr.
On va essayer de faire ça bien. La news spéciale Kassim, Eyuden Chronicle Rising sortira le 10 mai, c'est dans moins d'un mois. Eyuden Chronicle, vous savez, hein, c'est le jeu par les créateurs de Suikoden, dont il y aura deux jeux différents. Eyuden Chronicle 100 Heroes, qui est le jeu comparable à Suikoden, et Rising, qui est un jeu, on va dire, d'action, de plateforme d'action, qui va arriver, lui, très bientôt. Donc, vous pourrez encore trouver un autre jeu auquel il faut absolument jouer pour certains d'entre nous.
Et ce ne sont pas les mêmes studios, du coup, qui ont fait les deux jeux, j'imagine ?
Je crois pas, non. Effectivement, c'est un partenariat.
Il y en a un que tu conseilles plus que l'autre ou...
Alors, moi, j'en sais rien du tout, mais le Eyuden Chronicles 100 Heroes, il sort pas tout de suite. Hein. C'est, je crois, en 2023.
Donc d'accord,
ok. Tu vois, c'est un petit peu un prologue.
Prologue.
Proquel.
Prologue.
Un proquel. Ok, il s'est passé un truc de fou. Hier, je suis retombé 4 ans en arrière, en 2018. Il y avait des news sur Overwatch.
Mais j'ai vu ça.
J'ai pas compris ce qui s'est passé.
Incroyable, ils sortent un nouveau personnage.
Alors, pas tout à fait. En fait, ils présentent un perso qui sera inclus à Overwatch 2. Et, enfin, dans la salve de nouveaux persos développés pour Overwatch 2. Et qui sera utilisé dans la version d'Overwatch 2 bêta, qui sera utilisé par l'Overwatch League dans, là, quelques semaines. Donc, ils commencent à le présenter. Il y a eu un Origin Story vidéo qui a été présenté hier, et il y aura le gameplay vidéo qui sera présenté aujourd'hui, là, dans quelques heures, par Blizzard. Donc, mais c'était juste, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Tout ça n'était pas réel, et en fait, on est en 2018, on a des news Overwatch.
Je pense qu'on a tous eu la même réflexion. Ouais, je rigole avec j'ai un groupe de copains avec qui je joue encore régulièrement Overwatch et on se moque du jeu en y jouant en disant qu'on attend Overwatch 2 avec beaucoup d'impatience. Et du coup, quand j'ai vu sortir ça, je leur ai dit, vous avez vu les gars, ils prévoient déjà Overwatch 3 alors que le 2 n'est pas encore sorti.
Bon. C'est un peu ça. Oui, il y a des gens qui m'ont dit sur Twitter aussi, non, mais c'est pas 2018, hein, c'est qu'on est arrivé en 2025, en fait. C'est ça.
La finesse.
Ouais. Donc bon, ça arrive. D'ailleurs, tu es au courant que Overwatch a été séparé entre Overwatch 1 et Overwatch 2, niveau PVP et PVE. Ils vont mettre à jour Overwatch 1 avec les ajouts qu'ils avaient prévus pour la partie PVP du 2, avant de sortir le 2, qui ne sera du coup plus que la partie PVE.
Donc, et ben non, tu vois, je sais pas. Je t'avouerai que j'ai un peu lâché...
C'était pendant que t'étais en vacances, sans doute. En train de boire tes mojitos. T'étais
très certainement. Donc, au final, ça veut dire qu'on n'aura pas un Overwatch 1 et un Overwatch 2. On aura deux titres, un pour le PVP et un pour le PVE, au final.
Alors, c'était ça qui était prévu plus... En fait, non, pas vraiment, parce qu'ils continuaient à mettre à jour Overwatch 1 avec le contenu PVP qui était inclus à Overwatch 2, de manière à ne pas obliger les gens à racheter Overwatch 2 s'ils voulaient juste jouer en PVP. Et aujourd'hui, ça sera toujours le cas. C'est juste que on aura ce contenu PVP un petit peu plus tôt que si on devait attendre la sortie d'Overwatch 2, qui semble toujours pas se profiler, tu vois.
Ouais, puis j'imagine que le rachat de Microsoft facilite pas forcément. Enfin, j'imagine que pour les équipes, ça doit pas être évident de se projeter en interne.
Ils se rendent compte que ça prend tellement de temps pour Overwatch 2 et que je pense qu'ils sont pas satisfaits de la partie PVE, quoi. Donc ils se disent, il va falloir qu'on reprenne encore des trucs, ça va prendre encore du temps. Et donc, bon, bah, arrêtons de merder, on va sortir. La grande question, c'est, est-ce qu'ils vont sortir les persos sur Overwatch 1 sans les faire payer ? Parce qu'on se demande si Jeff Kaplan est parti parce qu'il y avait des problèmes avec le business model que voulait imposer Activision. C'est l'une des théories qui court. Et du coup, s'ils les intègrent tous à Overwatch 1, bah, ils ne vont pas se mettre à les rendre payants, quoi. Enfin, je pense que ça ne passerait pas auprès de la communauté. Parce que... Bon, bref... On verra, on suivra ça. Pour le moment, on va avoir une présentation de Sojourn, le truc inattendu. Et puis, Tactics Ogre pourrait faire son retour. Il y a des trademarks qui ont été enregistrés. Tactics Ogre, c'est encore l'un de ces jeux extrêmement populaires.
De boomer. Ah, pardon.
Non, non, mais complètement. Hein. C'est des jeux qui datent pas d'hier, des jeux Square Enix qui datent pas d'hier. Mais bon, ils pourraient faire un retour. Je le mentionne parce qu'il y a des gens à qui ça plaît.
Ah, j'adorais la DA de ce jeu. Très chouette.
Est-ce que tu es prête à aller te mélanger à des centaines de milliers d'autres personnes dans un centre de convention?
Non. Non, je t'avoue que s'il y a bien un truc qui me manquait pas, c'était ça. Déjà, aller me frotter à mes collègues dans un open space, c'est compliqué. Alors.
Donc, tu n'es pas certaine d'aller à la Paris Games Week qui revient cette année après être annulée en 2020 et 2021. Elle aura lieu du 2 au 6 novembre cette année. Le CEL vient de l'annoncer. Donc, toi, t'es pas trop partante, quoi.
Non, non, je suis trop vieille pour ces conneries.
Donc c'est pas question pandémie, c'est plus que t'es fatiguée, quoi. T'as envie de rester chez toi et de boire tes mojitos.
Puis avec mes précédents boulots, j'ai eu ma dose de salon, quel qu'il soit, et j'ai assez traîné au milieu des adolescents en sueur qui sentent pas très bon. Et je laisse ça aux autres maintenant.
Ah, mais quelle preuve infâme de jeunisme, franchement.
Je pense que là, depuis le début de l'émission, j'ai quand même assez montré.
écoute, c'est quand même un gros événement. Hein. Je le mentionne parce que il y a aujourd'hui, en dehors des États-Unis, trois événements majeurs, la Gamescom évidemment qui défonce tout, le Tokyo Game Show et la Paris Games Week qui fait quand même plusieurs centaines de milliers de visiteurs à chaque fois. Et c'est assez, comment dire, on pourrait penser que ça serait difficile pour un petit pays, entre guillemets, comme la France, d'atteindre ce genre de chiffres, mais c'est sans compter sur l'amour immodéré que portent les joueurs français à leur hobby. Et du coup, bon, il n'est pas certain qu'on fasse autant, justement, contexte pandémie, on verra comment ça se passe. En plus, en novembre, ça risque d'être, je ne sais pas où on en est, la 8e vague, donc on verra où ça en est, mais il aura bien lieu. Contrairement à la QuakeCon, qui sera en août un événement digital uniquement, numérique uniquement. Donc ça, c'est comme l'année dernière. Et puis, on conclut avec quelques petits mots pour dire que, alors d'une part, Microsoft a recruté un autre studio, qui s'appelle Certain Affinity, pour les aider sur le contenu récurrent de jeux-services de Halo Infinite. Clairement, ils n'étaient pas prêts. C'est couillon, hein, mais ils ont laissé retomber la hype du lancement, qui était vraiment bonne. Et là, ils se rendent compte qu'il leur faut de l'aide. Donc, ils recrutent un studio supplémentaire. Bungie est en train de faire maintenant de passer en « digital first » pour le travail. C'est-à-dire que les employés de Bungie seront, bien sûr, ils peuvent aller au boulot s'ils le souhaitent, mais le studio devient entièrement télétravail et ils se mettent à recruter des gens de partout, y compris des gens qui n'ont simplement géographiquement pas la possibilité d'aller au boulot, uniquement aux États-Unis, à ce stade. Donc ça ne concerne pas les autres bureaux. Mais aux États-Unis, ils deviennent digital first. C'est intéressant parce que dans ces types de domaines, c'est peut-être un petit peu plus facile de s'acclimater à ce genre de méthode de travail, même si en ce moment, les sociétés de la tech et même du jeu vidéo encouragent leurs employés à revenir. On a vu des grosses boîtes qui disent « bon, bah maintenant, on vient au boulot hein, » et qui font des fêtes, qui donnent des cadeaux, qui offrent bref.
Oui, il y a des études là qui commencent à sortir, j'en lisais une tout à l'heure, sur le fait que certaines générations de personnes se rendent compte qu'au final, elles préfèrent rester en télétravail plutôt que d'aller se frotter aux collègues en open space. Ça ne fait pas forcément écho à ce que je disais juste avant, ne tirez pas des conclusions hâtives, mais c'est intéressant quoi, est-ce qu'il faut proposer les deux, est-ce que...
Écoute, moi, le télétravail, je le pratique depuis un bon moment. Et j'aime bien travailler en caleçon, en fait. C'est ça la conclusion.
Moi personnellement, je n'ai aucun problème avec mes collègues, mais c'est vrai que le télétravail t'épargne une quantité phénoménale d'énergie dépensée inutilement dans les transports, ne serait-ce que ça, l'énergie et le temps, la fatigue que ça t'ajoute, et éventuellement, c'est vrai que le focus sur tes tâches est quand même un peu plus sympa quand t'es à la maison que quand t'es au boulot, mais après voilà, travailler avec les collègues, ça apporte quand même tout un tas d'avantages. Pour moi, le gros plus du télétravail, c'est quand même cette liberté que ça te permet, cette flexibilité sur ta vie personnelle. Je trouve que ça t'apporte un équilibre vie perso, vie professionnelle encore plus intéressant.
Sauf quand les enfants sont malades.
Ah bah ça, c'est sûr que... Ouais, non.
Mais bon, en même temps, si tes enfants sont malades, tu vas pas aller au boulot. T'es obligé de rester à la maison aussi, je pense. Au moins l'un des deux parents.
C'est pas faux. Ouais.
Bon, allez, on finit avec Activision Blizzard qui a fait un truc plutôt cool qu'ils avaient promis, c'est-à-dire convertir plus d'un millier de leurs travailleurs, contracteurs du QA, du Quality Assurance, du département qualité, en employés réels, temps plein. Donc à partir du 1er juillet, non seulement ils augmentent leur salaire minimum horaire à $20, mais en plus, ils intègrent vraiment la société Activision Blizzard. C'est surtout des travailleurs qui travaillent sur les jeux Activision, hein, la partie Activision. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Mais à côté de ça, on a eu des échos du procès du Fair Housing and Employment Office, Office of Fair Housing and Employment, qui est l'un des deux gros procès contre Blizzard, où les avocats principaux du camp de l'État ont accusé le gouverneur, d'interférer avec le procès en essayant d'orienter la chose vers les intérêts de Activision. Donc, bon, après, tout le monde a envoyé des communiqués en disant non, pas du tout, nous n'interférons pas du tout et nous sommes committed à faire respecter les droits des travailleurs, machin, mais c'est quand même un petit peu tâche, quoi.
Est-ce que tu crois qu'ils essayent de camoufler un max de trucs avant l'arrivée de Microsoft pour avoir le cul le plus propre possible d'ici juin 2023 ?
Écoute, je pense que là, à ce stade, il est difficile de camoufler les choses. Hein. Les enquêtes ont commencé en 2019. Ils ont mandé des documents depuis ce moment-là. Non seulement il est illégal de les camoufler, mais s'ils l'avaient fait, c'est déjà fait, tu vois. Je pense que c'est pas maintenant que tu vas commencer à camoufler. Non, par contre, ce que ça peut vouloir dire, si c'est avéré, c'est que Kotick est peut-être pote avec le gouverneur et que le gouverneur a passé quelques coups de fil en disant bah, « c'est bon, ça va, on va pas non plus, tu vois, être trop méchant, on va lui dire « machin, t'es vraiment pas gentil, Bobby, et puis ça va bien se passer ». J'imagine que c'est ce genre de choses plutôt. À noter que ce procès-là est l'un des deux qui a été initié. L'autre, je crois, s'est réglé avec 18 millions, quelque chose comme ça. Donc, bon, bref. Voilà pour la partie légale du rendez-vous jeu. Et je crois que c'est la fin de l'émission. Escarina,
c'était... Écoute, on est jamais autant à l'heure que quand on est qu'à deux.
Et pourtant, on avait beaucoup de choses à dire, mais on a...
Oui.
Merci d'avoir été avec moi dans ce podcast, d'avoir partagé.
Écoute, avec plaisir. C'est vrai que, tu sais, hier, quand j'ai été consulter le Google Sheet du rendez-vous jeu pour regarder un petit peu ce que tu avais préparé, je me disais, tiens, c'est marrant, il n'y a pas beaucoup de choses. Et au final, eh ben si, il y a quand même beaucoup de choses. Et on avait beaucoup de choses à dire, et ça, c'est cool.
Tu sais, c'est un peu... quelle comparaison je pourrais faire en fait, le rendez-vous jeu, c'est comme un gaz dans un espace clos.
Les
molécules de l'émission s'étendent pour occuper tout l'espace disponible, quel que soit l'espace disponible, tu vois. Si on me donne une heure, on fera une heure. Si on me donne une heure et demie, on parlera pendant une heure et demie. Et si on avait deux heures et demie pour parler de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, ça aurait pris deux heures et demie.
C'est ce qu'on appelle un podcasteur professionnel.
Exactement. dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'Internet si on en veut plus d'Escarina ?
Eh ben, on peut me retrouver sur Twitter, @escarina_, sur KissMyGeek, et puis ben, bientôt, comme je te le disais tout à l'heure, on enregistre un épisode de Super Gamerside avec l'équipe de 1P2P. On revient aux enregistrements en physique, donc on espère que le Covid va nous jouer de moins en moins de mauvais tours et que tout ça, c'est très loin derrière nous. Et puis sinon, eh ben, ici, tous les deuxièmes jeudis du mois.
Magnifique, merci beaucoup. On mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission comme d'habitude. Pour ma part, c'est notepatrick.com. Sur notepatrick.com, vous retrouvez absolument tous les liens vers tout ce que je fais, que ce soit le Discord où on passe de bons moments ensemble avec une communauté sympathique, que ce soit la chaîne Twitch où on se retrouve toutes les semaines, mardi midi pour le rendez-vous tech, jeudi midi pour le rendez-vous jeu, ou alors les podcasts que je fais, la newsletter tech, quoi d'autre, et le Patreon, patreon.com/rdvjeu. Si vous êtes dit dans votre vie, oh bah Patrick, moi je lui paierais bien une bière, ou alors comme on disait dans la chatroom, moi je voudrais payer les couches de ta fille. Écoutez, un moyen pour payer les couches, c'est patreon.com/rdvjeu. Et merci à tous les patriotes qui vous offrent cette émission et qui continueront à le faire puisqu'on revient la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, on va vous faire de grosses, grosses bises et on se retrouve donc dans une semaine. Si vous êtes patriote, en fait, on se retrouve tout de suite pour l'after show. Je vous fais de grosses bises et à très vite. Ciao, ciao.